بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون شيخ عن الإسلام نؤمن الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour écouter, étudier ensemble quelques commentaires d'Ibn Kathir, rahimahullah, concernant le chapitre que nous allons, inshallah, commencer à partir de cette semaine, la sourate Al-Qalam. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, avant la période de Hajj, nous avons pu compléter le tafsir de Tabarak al-Ladhi. En suivant scrupuleusement les enseignements de Ibn Kathir rahimahullah, et cela nous a nécessité plusieurs mois avant de compléter Tabarak al-Ladhi, et j'espère que depuis l'instant où on a commencé l'introduction de Tabarak al-Ladhi, on ne s'est pas couché une seule fois sans avoir lu la sourate, que pas une nuit ne se passe, pas un jour ne se passe sans qu'on se couche sans avoir lu la sourate Al-Mulk. Si déjà on a pu mettre cette action en pratique, alhamdulillah, on a beaucoup d'espoir d'être accepté par Allah, car cette sourate, Tabarak al-Ladhi, intercédera pour les personnes qui les lisaient régulièrement, qu'Allah nous donne ce tawfiq. Ce soir, inshallah, nous allons donc commencer la sourate Al-Qalam, donc le tartib, l'ordre qu'on a Inch'Allah, décidé de suivre, c'est après avoir complété le juz, le 30e, Amma Yatasa'aloun, plutôt dans le sens de Qul A'udhu Birabbin Nas jusqu'à Amma Yatasa'aloun. Donc là, on démarre Tabarak al-Ladhi biyadihi al-Mulk, et là, on fait Surat al-Qalam, et ainsi de suite, Inch'Allah. Bi'idhnillah, on va essayer d'avancer dans les différents chapitres du 29e juz. La première question, avant de démarrer la Surat al-Qalam, la première question que je vous pose, mais en fait, nous devons nous-mêmes nous poser, c'est une question qu'on se pose nous-mêmes et que moi-même je me pose en premier, et je vous invite tous à réfléchir à cette question. Elle est très simple: pourquoi est-ce que nous sommes présents ce soir? Quel est l'objectif recherché? Alors très simplement, pour qu'on ne perde pas trop de temps, l'objectif essentiel, c'est d'étudier le Coran, essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à travers les versets, ces versets qui ont été révélés à notre prophète alayhi salatu wa salam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, versets qui ont reçu la protection totale de la part d'Allah azza wa jal. Ce sont des versets dont personne ne peut changer le sens, shakl, l'apparence, ni même la moindre voyelle, et ce sont des versets qui sont remplis de lumière, mais ce sont des versets qui avant tout s'adressent aux hommes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle chaque ayah, chaque verset du Coran, certes nous le lisons, certes nous le mémorisons, certes nous l'écoutons par des imams ou par différentes personnes, mais avant tout, ces versets, nous devons essayer de comprendre le message véhiculé à travers chaque ayah. Chaque verset, ikhwani fillah, est une mine, je dirais pas d'or parce que ce serait un manque de respect au Coran, c'est une mine de nour, c'est une source de lumière. Ce n'est pas pour rien si le prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il dit avec des termes qui sont vraiment propres au messager d'Allah alayhi salat wa salam, ô musulmans, ces deux choses, je vous ai laissé deux choses, restez accrochés. At-tamassouk. At-tamassouk, c'est pas juste al-amalu bihi. C'est pas juste mettre en pratique. At-tamassouk, ce n'est pas juste lire ou écouter. Non, c'est vraiment s'y accrocher. C'est rester ferme, ne pas lâcher prise. Comme on tient une corde. Dans d'autres versets, quand on parle, wa'intasimu bi hablillah. C'est quoi une habl? En arabe, habl, c'est une corde. C'est n'importe quel lien qui nous permet de nous accrocher à quelque chose. Et la métaphore, elle est puissante de le verser. Ça veut dire que c'est par le Hablillah, par le Coran, que l'homme tient ferme. Il peut continuer à avancer. Car dans un autre hadith, le Prophète a dit, ça on expliquait à nos grands, aux lycéens, il y a quelques jours, dans un contexte très compliqué, un contexte où il y a une montée d'islamophobie qui, on parle même plus d'une montée, d'une banalisation, une installation de l'islamophobie dans tous les niveaux de la société, qui devient vraiment la norme et qui devient un sport d'État. Malheureusement, on a vraiment besoin de booster sa foi, on a besoin d'encourager nos jeunes. Et lorsque dans les madaris, nous avons l'occasion de faire des cours aux lycéens, sont en premier, en terminale, on a notre but, honnêtement, on n'est plus là pour enseigner que les maslas. Il faut faire comme ça, ça c'est makrou, ça c'est bien, ça, ce sont les bases. Mais notre objectif, c'est de les sauver. C'est de les sauver de cette razou fikri, on pourrait dire de cet embrigadement qu'il y a à travers les médias, à travers tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, et tout ce qui a pour objectif de saper le moral du croyant et de le faire croire que ce qu'il est en train de mettre en pratique, ce sont là des traditions qui sont obsolètes, qui sont arriérées, qui ne mènent à rien et qu'il faut revoir. On veut une révision complète de l'islam, de ses croyances, de ses pratiques, de leur relation même de l'homme avec Allah Azza wa Jal. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'éteindre cet islam. Dites-moi, est-ce que celui qui pourra éteindre la lumière d'Allah, il est déjà né? J'allais dire qu'il n'est pas né de la dernière pluie, ni de la dernière, ni de la première, ni d'aucune pluie. Car de le Coran, Allah Azza wa Jal promet, annonce, يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللَّهِ. Que déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les gens ont essayé, la traduction approximative, d'éteindre, d'atténuer, d'affaiblir la lumière d'Allah. Mais Allah refuse. Allah n'accepte pas. Et qui prend les décisions? C'est Allah Azza wa Jal. وَحْيُمْ مِنَ اللَّهِ. C'est une révélation de la part d'Allah. C'est kalamullah, la parole d'Allah. C'est un guide pour l'humanité. Comme le hadith qu'on disait au début, je vous ai laissé deux choses. Restez accrochés, vous ne serez jamais. Lan tadillu abada. Et abada, en arabe, quand on dit abada, c'est jamais, c'est pour toujours. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, quels que soient les péchés, quels que soient les fitanes, quels que soient les problèmes qu'il peut y avoir, quelles que soient les sources de troubles, de turpitude, l'appel vers les péchés, quel que soit le contexte, bref, même des contextes de guerre, même des contextes d'oppression, comme les sahaba ont vécu à Mecca, oui ou non? Comme d'autres sahaba l'ont vécu à différentes époques, comme certains tabi'in ou atba'i tabi'in ont vécu dans certaines époques, à certains empires islamiques, lorsqu'on était à la fin de l'empire Omeyyade, transition avec l'empire Abbaside et ainsi de suite. Il y a eu des moments, à la fin de Daoula Umayya, il y a eu des moments très difficiles où des musulmans ont connu beaucoup de difficultés, quelles que soient les époques. Même aux dernières époques, lorsque l'antéchrist sera là, Ad-Dajjal sera présent, le prophète nous a demandé de lire quoi? Al-Kahf, c'est-à-dire la seule protection contre Dajjal, contre Shaytan, contre le nafs, contre les péchés, contre les fitan, ma zahara minha wa ma batan, contre n'importe quelle chose, facteur qui nous éloigne du droit chemin, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Restez accrochés, lan tadillu abada. Et lan, c'est la particule qu'on utilise pour la négation du futur. Et on le renforce avec abada, c'est-à-dire que reste ferme, pratique le Coran, tu ne seras jamais égaré. Cela veut dire qu'on doit être capable de comprendre le message qu'il y a à travers les versets. J'allais dire décrypter, mais non, les versets sont simples, éloquents, un niveau linguistique jamais atteint par aucun être humain, mais un message qui est simple et qui percute les cœurs. Je me rappelle au début, on avait commencé le muqaddima, l'introduction de tafsir, on avait dit que les savants disent que parmi les caractéristiques du mu'ajiza du Coran, c'est que chaque croyant, selon son niveau spirituel, son intelligence et sa relation avec la langue arabe ou la traduction qu'il a, ben il peut puiser quelque chose de chaque verset. Celui qui a une connaissance basique, il peut juste lire Tafsir Ibn Kathir en français, il va trouver ce qui lui sera profitable. Celui qui a, mashallah, un bac plus 15, ou qui a une maîtrise, une licence, un doctorat en arabe, qui a fait des études, il lit un livre de Tafsir qui est plus complexe, pour le même verset, il va obtenir, il va apprendre d'autres choses. Et également, un même verset, vous l'étudiez plusieurs fois, à chaque fois, vous allez trouver une nouvelle lumière. C'est inépuisable. C'est parce que ça, c'est la parole d'Allah. C'est une sifat d'Allah Azza wa Jal qui est là, qui est avec nous. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus important, c'est le plus beau trésor, c'est le plus beau cadeau qu'Allah nous a accordé. C'est la plus belle des révélations et la seule qui est protégée par Allah Azza wa Jal. Donc, pour revenir à tout ce qu'on disait, quand le prophète dit qu'à la fin des temps, rester ferme dans sa religion sera aussi difficile que tenir une braise ardente au creux de sa main. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos jeunes. On essaie de leur faire comprendre que vous allez entendre plein de choses. Vous entendez déjà. Vous allez entendre pire encore. Vous voyez des choses qui vous choquent, qui vous attristent. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les époques, les générations, les adjials, vous allez voir des choses qui vont vous attrister, vous choquer encore plus. Car sachez que le prophète Ali, salatu wassalam, a annoncé que parmi les petits signes de Qiyama, la perte des valeurs, la perte de la disparition de la pudeur, tout ce qui est intrinsèque, tout ce qui est propre à l'homme en termes de valeurs, en termes de qualité, l'humanité va, on peut dire que l'humanité se déshumanise complètement. Perte de valeur totale. Et la religion qu'Allah Azza wa Jal a choisie pour cette dernière umma, elle sera malmenée. Elle sera oppressée à la fin des temps et ça deviendra de pire en pire jusqu'à l'arrivée de Al-Mahdi. Et là, c'est la délivrance. Et pendant toute cette période, ceux qui restent fermes sur le droit chemin, subhanallah, leur rang est exceptionnel auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que les récompenses, les rétributions sont proportionnelles au mujahada, aux efforts et aux difficultés. Quelqu'un qui vit sa religion dans un contexte aussi difficile qu'à Paris, en métropole, ou dans d'autres villes, dans d'autres grandes métropoles, en Europe, ou dans des endroits où vraiment il y a beaucoup de difficultés, ou même à La Réunion, où alhamdoulilah c'est atténué, mais vivre dans des fitnas et vivre avec tout ce qu'on entend comme discours et cette haine montante et chaque point de l'islam, jour après jour, on découvre un nouvel article ou une nouvelle une ou un nouveau sujet, un nouveau débat concernant un point de la religion. Je ne vais pas citer, on ne fait pas de la politique, je ne vais pas citer tout ce qu'on a entendu dans l'actualité ces derniers temps, mais il y a encore une liste et ça viendra et ça va continuer. Ben, sous ça, ça touche le croyant. Ça nous blesse, même si on n'est pas directement concerné. Moi, perso, je ne suis jamais allé à la plage en burkini. Et je ne pense pas que j'irai demain ou après-demain. Ça ne me concerne pas directement. Ça ne concerne même pas mes proches. Mais à chaque fois qu'on porte atteinte à l'islam, on essaie de toucher, de taper un peu plus sur l'islam, ça nous affecte, oui ou non? Ça nous fait mal. Le cœur saigne. Mais ce sont là des épreuves. Qu'on le vive avec dignité et qu'on garde confiance en Allah Azza wa Jal. Et je vous fais une confidence. Quand on revient d'un voyage comme le Hajj, où on est, mashallah, on voit la Ummah. Personnellement, on était dans un groupe avec environ 35 à 40 nationalités différentes. 4 ou 5 représentants de chaque nationalité, un groupe de 300. On voit des grands mashaïrs, des savants, des mufassirs, des gens qui, mashallah, ils ont un niveau de connaissance qui est tel que nous, on n'a rien dit pendant presque tout le séjour. Quand il y avait des échanges, des débats, des bayans, on ne posait pas de questions parce qu'on n'avait même pas le niveau. On n'avait pas le niveau face à ces grands ulamas, ces grands savants. Donc, on est content, on est bien entouré, on sent cette lumière spirituelle, on est confiant, on a envie d'avancer. Et puis, quand on retourne, puis les autres rites, quand on voit le Jamarat, l'habitation des stèles, on voit le Tawaf, subhanallah, le Sa'i, on voit le monde entier qui se concentre, on voit Arafat, des mains levées avec espoir, et on voit les gens qui exagèrent même quand ils lèvent les bras, comme le prophète alayhi salat wa salam, lors du Wukuf à Arafat, il levait les bras jusqu'à ce que ses aisselles étaient visibles. J'ai vu une personne après Asr faire doua mais les mains levées, et c'est un savant, on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui fait par ignorance, il voulait mettre cette sunna en pratique, debout, lever, demander, et il a fait doua depuis Zohar, et il continue. Ben, nous aussi on essaie de mettre en pratique, c'est-à-dire que ta foi elle est boostée, elle avance, elle monte en puissance. Maintenant quand tu retournes dans un contexte où tu rattrapes les 15 jours avec toutes les infos et tu te rends compte que à quel niveau on est arrivé, ben vous savez, on est vraiment atteint psychologiquement, ça nous affecte. Mais quand il y a une seule façon, de trouver le réconfort. C'est par le biais du Coran. Et subhanallah, c'est le premier dars qu'on fait donc, depuis le Hajj, depuis le retour, bi-idhnillah, en ouvrant donc, le surat Al-Qalam, alors qu'on avait encore le cœur un peu gros hein, en lisant les actualités. Plus on lit, plus ça t'enfonce, ça te démoralise. On a lu les premiers versets de Noun, du verset 1 jusqu'à بأيكم المفتون jusqu'au verset 6 et un morceau du 7 avec la traduction avec le tafsir Ibn Kathir. Subhanallah, ça évacue toute cette ramme walham, toute cette tristesse, cette mélancolie, elle est balayée directement parce que le message de Suratul Qalam est adressé à un prophète qui est opprimé, un prophète qu'on traite de fou, qu'on traite de menteur, qu'on traite de sorcier, qu'on traite d'égaré et qu'on considère ces pratiques comme des pratiques qui n'ont aucun sens, qui n'aboutira à rien, qui de toute façon va être perdu et qu'on se moque de lui parce qu'il n'a pas d'enfant et donc pas de... son nom sera perdu chez les Arabes. Il faut avoir beaucoup de garçons, de fils, parce que si tu as beaucoup de garçons, d'enfants, de fils, ben ton nom se transmettra de génération en génération. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a que des filles. Et quand Allah lui accorde un fils, Allah le lui reprend. Des épreuves. On est à Makkah, j'ai oublié de le dire. Al-Qalam, surat Al-Qalam, c'est une surat qui est makkiya, qui a été révélée à Makkah. Et à notre époque, dans le contexte dans lequel nous vivons, on a grandement besoin, si on avait rappelé dans d'autres circonstances, on a vraiment besoin des ayat makkiya. Des versets qui encouragent le croyant. Et les 6 premiers versets, je ne sais pas, je n'ai pas parcouru le reste, mais certainement ça va dans ce sens, parce qu'il y a une chronologie dans la diffusion des versets, dans tous les chapitres. Les versets, c'est une succession d'accusations et d'encouragements. Ô Mohammed, ils te disent telle chose, mais sache qu'Allah t'a promis telle chose. Ils te disent que tu es comme ça, mais pour Allah tu es magnifique. Ils t'accusent de telle chose, mais pour Allah tu es le meilleur. Et à travers ces versets, on s'imprègne de un peu de la tristesse du prophète alayhi salat wa salam. Il n'a jamais fait du tort aux gens, il n'a jamais insulté personne, il a toujours eu le meilleur des comportements depuis l'époque al-jahiliya où il avait le meilleur des comportements avec ses ignorants. Au début de l'islam, il n'a jamais agi hein, de façon déplaisante. Il a toujours eu le meilleur des comportements. Comment ces personnes qui le traitaient, qui le considéraient comme Al-Amin, l'homme de confiance, il l'aimait. Du jour au lendemain, le traite de sorcier, de menteur. C'est-à-dire qu'on ressent toute cette tristesse du prophète alayhi salatu wassalam, cette sensibilité face aux accusations des gens, face à leur méchanceté, et face à tout ça, le prophète, il n'a que son Seigneur. Il a les encouragements d'Allah Azza wa Jal. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnoun. Ça te propulse. Ça te donne, subhanallah, un niveau de iman. Ça t'encourage. Ça te fait réaliser que tout ce que tu subis, tout ce que tu entends, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est ajr ghayr mamnoun. Illimité. Qu'Allah te donne, il va te donner, mais énormément. Donc n'écoute pas, ne te préoccupe pas, ne sois pas triste, la tahzan, ne sois pas affecté par ce qu'ils disent, ne sois pas affecté par la réaction des gens. Tu vois, il n'y a que Abu Bakr, il n'y a que Ali ibn Abi Talib, tu as Khadija, tu as quelques personnes, tu as Aliyas, tu as quelques personnes qui sont avec toi, les autres se moquent de toi et ils rigolent parce qu'ils voient que ta prêche ne marche pas. C'est ce qu'ils interprètent, les mécréants. Ça ne marche pas. Ils prônent, ils prêchent. Qui c'est qui le suit? Les faibles, les personnes qui n'ont aucun soutien du peuple. Ils se moquent de lui. Ne t'inquiète pas, même si tu ne vois pas le résultat, même si tu as l'impression que ça ne marche pas, ça marche. Allah t'a fait des promesses. Et sache que ce que tu es en train d'endurer maintenant, la récompense est ghayr mamnoun. C'est une récompense qui est sans limite. Et c'est Allah qui te promet cette récompense. Celui qui est le Karim, le généreux, il te dit que ce que je vais te donner en ce sens, c'est sans limite. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oh Muhammad, oh mon prophète, tu as un comportement noble. Tu es le meilleur de tous. Donc, n'écoute pas Ces gens qui te critiquent, ce sont des ignorants, ce sont des égarés. Allah n'a pas guidé leur cœur. Donc n'écoute pas leur discours. Ces premiers versets de la sourate Al-Qalam, c'est un encouragement pour le croyant. Pour le prophète, alayhi salat wa salam, on appelle ça en arabe At-Tasliya, un encouragement. Allah Rabbul Izzah encourage par exemple de différentes façons dans le Coran. Très souvent, c'est par le biais d'histoires des autres prophètes. Quand Allah Azza wa Jalla raconte l'histoire de Moussa alayhi salam, par exemple, comment est-ce qu'il a connu des difficultés, comment est-ce que son peuple a été désobéissant, a été insolent, ils n'ont pas respecté leurs engagements, et ainsi de suite, ils n'ont pas vu l'aide d'Allah, ils n'ont pas été reconnaissants, et comment le prophète Moussa alayhi salam a été patient, et comment Allah lui a accordé son aide, tout ça, ce sont des encouragements pour le prophète alayhi salatu wassalam. Là, dans le début de la sourate Al-Qalam, ce sont c'est un discours direct. Allah Rabbul Izzah cite les qualités du prophète alayhi salatu wassalam et l'encourage directement. Non pas à travers le vécu de ses frères prophètes, mais directement, et ce sont les paroles d'Allah qui mettent en avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le plus beau, le meilleur des encouragements qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et les mufassirins disent que pour nous aussi, si nous traversons des situations similaires, pas pareil bien sûr, mais qui se rapprochent, et que nous restons fermes dans al-amal, al-ilm, wa tablir, la connaissance, la pratique et la propagation. C'est-à-dire, comme les prophètes alayhi salatu wassalam le faisaient, nous aurons, inshallah, les mêmes promesses de la part d'Allah. Car Allah, Rabbul Izzah, agit avec nous comme il a agi avec An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ikhwani fillah, quand on disait en introduction que ce Coran, c'est une source de tranquillité, d'apaisement, de ressources spirituelles, ça rebooste la foi, ben on peut dire qu'à travers chaque verset, on trouve quelque chose qui apaise les cœurs. Hada. On a combien de minutes là? 25 à peu près. On va faire encore 5 minutes pour ne pas faire trop long. On va commencer juste le premier ou le deuxième verset. Alors tout d'abord, la sourate Al-Qalam commence par Nun wal qalami wama yasturun. Alors, quand on a un sourate qui commence par une lettre qu'on appelle huruf muqatta'a, les lettres isolées. Les lettres isolées peuvent être composées de plusieurs lettres, comme le maximum c'est Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. On peut avoir d'autres huruf muqatta'a, d'autres surahs qui commencent par trois lettres. Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. Ou par quatre lettres. Alif, Lam, Mim, Ra. Ou deux lettres comme Hamim. Tous les Hamim comme Taha, Yasin. Ou alors une lettre comme Nun, Sad, Qaf. Il y en a d'autres? Je pense qu'avec une lettre, ce sont les trois là. D'accord? Ce sont ce qu'on appelle des huruf muqatta'a, des lettres isolées. Alors, ces lettres isolées, si on fait une synthèse de l'avis des mufassirines, certains mufassirines sont d'avis que ces lettres ont un sens et Allah seul le sait. Et certaines personnes peuvent le découvrir. Comme, si je ne me trompe pas, un des mufassirines, je ne sais pas si c'était Ibn Abbas même, Wallahu a'lam, a vérifié, il avait dit que Alif Lam Ra, par exemple, ça veut dire An Allahu Ara. Je suis Allah, je suis celui qui voit. D'autres mufassirines, et c'est le Jumhur, c'est la majorité des commentateurs du Coran, selon eux, ces lettres, c'est Dalil ala al-i'jaz al-ilmi. C'est un miracle. Ces lettres, ce sont des miracles parce qu'il y a tarkib al-huruf. Allah Azza wa Jal combine des lettres et ces lettres combinés deviennent des versets. Et on y trouve une lumière. On y trouve quelque chose qui est similaire aux autres ayats. Alors que si un homme essayait de combiner d'autres lettres ou d'utiliser d'autres lettres, on voit immédiatement que ça ne passe pas. Il n'y a pas le même charme. Quand on dit qaf, voilà, quand on dit nun ou al-qalam wa ma yasturun, si on avait remplacé nun par jim, ça passe pas. Lam, ça passe pas. Et pareil, que ce soit une lettre ou deux lettres ou trois lettres, essayez de composer un verset avec deux lettres au lieu de taha yasin. Prenez par exemple dal jim, ça passe pas. C'est-à-dire que même dans une composition d'une lettre, de quelques lettres, on voit la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et personne ne peut combiner des lettres qui donnent, on pourrait dire,
on parle pas de sens, mais qui sont si agréables, voilà, qui sont si agréables et c'est le but, qui touche les cœurs, qui touche directement les cœurs. Je connais même des personnes que lorsqu'ils lisent, s'il y a des gens qui sont malades, ils utilisent les versets, les hurufs, muqatta, hamim, ainsi de suite, avec peut-être cette conviction que ce sont des lettres qui ont un certain impact dans les lectures, et ce sont des choses qu'Allah seul le sait. Donc, toutes ces sourates qui commencent par ces lettres, on appelle ça huruf muqatta'a. C'est là une preuve de la puissance d'Allah Azza wa Jal à travers ces versets. Quand Allah demande aux gens de se réunir et apporter 10 versets, ou alors même dans d'autres versets apporter un seul ayah, et que personne n'est capable d'imiter le style du Coran, ça prouve bien que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et cette puissance par rapport au terme du Coran, par rapport au niveau linguistique, elle prend son ampleur par rapport à deux facteurs. Premier facteur, le fait que ces paroles sont prononcées par un homme qui est ummi, illettré. Ce n'est pas un grand poète arabe, parce qu'à l'époque, connaître la poésie, c'était vraiment quelque chose d'apprécié. Comme à notre époque, les gens qui sont respectés, je ne sais pas, c'est les gens qui ont telle chose, telle qualité, ou un compte en banque bien garni, ou tel moyen de locomotion. À l'époque, chez les Arabes, celui qui est éloquent, le poète, celui qui peut écrire des poésies qui sont admirées des gens, ben c'est quelqu'un qui est noble, c'est quelqu'un qui est respecté. Mais là, si ça venait d'un grand, de quelqu'un d'éloquent, les gens auraient pu dire que ben, ça vient de lui. Mais là, ça vient de quelqu'un qui ne sait ni lire, ni écrire. Ce qui donne encore plus d'ampleur à ces paroles, à la parole d'Allah, qui est prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre facteur, c'est que ce Coran est révélé dans un contexte où, comme on a dit, le niveau de langue arabe était le plus fort, quelles que soient les époques. Il n'y a jamais eu une époque où les gens ont plus maîtrisé la langue arabe qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ces bédouins qui avaient une maîtrise du fusha, de l'arabe littéraire, et ces Quraysh, et ces personnes qui se réunissaient, qui faisaient des concours de poèmes, et les plus beaux poèmes, les vers étaient tissés en fil d'or sur la Kaaba. Tout ça, ça nous montre le niveau niveau de la langue à cette époque était vraiment quelque chose de valoriser. Donc ils avaient atteint le plus haut niveau de maîtrise de langue arabe. Et ce discours, ce Coran qui vient à cette époque, et que tous ces grands spécialistes de la langue arabe restent bouche bée. En entendant les versets, ils disent tout de suite, immédiatement, ça c'est pas la parole d'un homme. Même ce, j'ai plus son nom en tête, quand il y avait deux mouchriquines qui étaient parti voir le prophète alayhi salat wa salam pour le décourager, ou plutôt pour l'encourager à arrêter cette mission, et le prophète, si je ne me trompe pas, avait lu quelques versets de Hamim, la personne est ressortie abasourdie. Il a dit, alors, qu'est-ce que tu as pu lui dire? Elle a dit, ben, en ce sens, il a lu, il a prononcé des paroles, Wallahi, ça c'est pas kalam ul bashar. Aucun être humain ne peut dire de telles paroles. Et ce sont des grands spécialistes qui le reconnaissent. C'est comme si je vous apporte une thèse scientifique, une thèse médicale, devant vous. Il n'y a pas de médecin ici, donc ça passe au pays des aveugles, bornirois. Mais si je vais faire j'apporte une thèse médicale auprès de grands professeurs au CHD de Belle-Pierre ou à Paris ou Salpêtrière, je ne sais pas comment on dit ça, et qu'ils sont impressionnés, c'est que vraiment ce que j'ai dit, c'était quelque chose de haut niveau. Là, on a affaire aux plus grands connaisseurs de la langue arabe, toute époque confondue, des Quraysh. Et quand ils écoutent les versets, ils savent plus quoi dire. Ils disent une chose, ça c'est pas kalam ul bashar. Ça ne peut pas venir d'un être humain. Quand Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu invite les gens vers l'islam à Al-Madinah, comment est-ce qu'il a invité les gens vers l'islam? Avec l'épée? Avec les poings? Avec les genoux? Coup de tibia? Coup de tête? Coup de coude? Kalamullah. Il récitait les versets du Coran. Et les gens qui étaient sincères, on parle des noms, des polythéistes, des adorateurs d'idoles à Madina, à Taïba, ceux qui n'avaient pas de fierté, d'orgueil, et qui ne recherchaient pas autre chose à travers le culte des pierres rester l'attribut dominante, ainsi de suite. Ceux qui étaient sincères, qui cherchaient la vérité, ce Coran-là pénétrait leur poitrine immédiatement, ils se convertissaient à l'islam. Il y avait l'histoire de deux personnes, Sa'ad, lequel ? Sa'ad, si je ne me trompe pas, bin Mu'adh, à vérifier, et Usayl bin Khudayr, ainsi que d'autres zu'ama, d'autres chefs de tribu de Madina. Quand ils ont entendu que cet homme-là, il prêche, ben, il y en a qui étaient partis le voir, écouter, et ils faisaient semblant, ils passaient un petit peu à côté pour voir qu'est-ce qu'il se dit. Ils étaient scotchés en finalité. Même à Mecca, certains polythéistes, ils allaient le soir écouter ce que le prophète lisait. Ils voulaient pas croire à tout ça. En fait, c'était la pire des choses pour leur ennemi. Mais ils pouvaient pas résister. Quand ils avaient entendu une fois un verset, ils voulaient repartir le lendemain pour voir qu'est-ce qui a été révélé. Ils écoutaient parce que ce sont des spécialistes de la langue arabe et ils voient que ce discours-là, c'est un autre niveau. Ça, c'est Kalamullah. Donc, le fait que ça provienne, c'est véhiculé, c'est transmis par un homme qui est illettré et c'est reconnu par les plus grands spécialistes de la langue arabe comme étant un discours qui dépasse le niveau de n'importe quel être humain, ça nous montre bien que uniquement par le style du Coran, nous voyons la véracité que c'est Kalamullah. À travers le contenu, nous voyons que c'est Kalamullah, c'est la vérité. À travers les versets miraculeux qui décrivent la création des cieux et de la terre, ainsi de suite, les miracles de la création qu'on découvre jour après jour, tout ça, ce sont des preuves de véracité. Quand votre foi diminue, quand vous sentez des doutes vous envahir, parce que ce sont des étapes, des états de la foi, parfois ça diminue. Quand on est trop entouré de choses mauvaises, qu'à un moment donné on commence à se poser des questions, dites « A'udhu billahi minash shaitani rajim » et reconcentrez-vous sur le Coran. Voyez la beauté du texte, voyez la profondeur du contenu, des paroles, des explications scientifiques que certaines thèses n'ont jamais été découvertes, certains sont découverts maintenant ou récemment, et cela défie toutes les lois, toutes les recherches, parce que cela a été prononcé par un homme il y a plus de 14-15 siècles dans un désert, où il annonce des choses qui sont maintenant découvertes au 18e, 19e ou au 19e siècle. Ce Coran, c'est ce qui est vraiment plus important pour le croyant, pour se ressourcer et pour rester ferme dans sa foi au cas où les gens essaient de nous déstabiliser dans notre iman. Nous, une fumée là, c'est insupportable. Allah nous protège de la fumée du Jahannam. Amin. Il doit maintenant un incendie quelque part. Et la fumée arrive jusqu'au centre-ville de Saint-Denis. Et il y a un peu plus ici au niveau de l'atelier. Réfléchissez juste que le jour de Qiyama, il y a des gens qui vont sentir la fumée de l'enfer. Et parmi les doigts que nous devons demander, qu'Allah nous protège même de sentir le dhran, la fumée du Jahannam. Allahumma amin. On va finir avec ça. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Et on va commenter ça, inshallah, la prochaine fois, parce que ça, c'est des paroles, chaque ayah mérite explication. Mais il y a pas mal d'explications. C'est assez lourd. C'est assez technique. Et on va garder ça, inshallah, pour la prochaine fois. On va essayer de comprendre qu'on parle de stylo. Est-ce que c'est tout ce qui est écrit ou un stylo spécifique? Et wa ma yasturun, et ce qu'ils écrivent, qui? Est-ce qu'il s'agit des anges? Est-ce qu'il s'agit des actions des êtres humains? Inch'Allah, on va essayer d'être régulier, qu'Allah nous accorde istiqama, pour rester ferme de ces douloureux de tafsir tous les vendredis soirs. On va essayer d'avancer tous les jours, quelques versets, inch'Allah, et qu'Allah nous donne la possibilité de mettre en pratique que la lumière de ces paroles pénètre nos cœurs. N'oublie pas, ce soir avant de dormir, inch'Allah, on lit Tabarakalladhi afin de, inch'Allah, faire partie des gens qui ont été réguliers dans la lecture de Surat Al-Mulk. Et lorsqu'on meurt, inch'Allah, depuis la tombe même, la Tabarakalladhi va intercéder pour nous, va se tenir auprès de nous. Qu'Allah nous accepte. Subhana Rabbika. Rabbil Izzati Amma Yasifun. Salamun Ala Al-Mursaleen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakallah khair.